plus encore que de littérature et de paysage, on parlait d'amour à Saint-Fargeau. C'est un sujet dont les femmes ne se lassent jamais et sur lequel elles ont toujours quelque chose à dire. Mademoiselle s'y prêtait complaisamment. Ce fut elle qui mit en discussion certains jours de pluie où l'on ne pouvait sortir, une question dont l'hôtel de Rambouillet eût évié la subtilité. Lequel doit mieux sentir les inquiétudes de l'absence d'un amant qui serait aimé ou d'un qui ne le serait pas ? Elle consentait à admettre les idées de l'astré sur la fatalité de la passion, à condition d'en borner les effets aux personnages de romans ou, dans la vie réelle, aux gens de petite naissance. Ce gré a pu lui faire dire, sans la choquer, dans une nouvelle qu'elle est censée avoir dictée. L'homme n'est pas libre d'aimer ou de n'aimer pas comme il lui plaît. Dans le fond de son âme et la vérité de sa pensée, jamais Mademoiselle de Montpensier n'avait été plus éloignée de comprendre l'amour. Jamais elle ne lui avait refusé plus énergiquement toute beauté et toute grandeur. L'une de ces dames, la gracieuse Frontenac, aux yeux remplis de lumière, avait fait un mariage d'inclination, chose absurde, chose basse et honteuse, au jugement de sa maîtresse. Le ménage alla mal. Monsieur de Frontenac était un bizarre. Sa jeune femme le prit en crainte, puis en aversion. Et il se passa entre eux, à Saint-Fargeau, des scènes tragicomiques que personne ne put ignorer. Mademoiselle venait justement de commencer ses mémoires. Elle s'empressa d'y compter les querelles conjugales de monsieur et madame de Frontenac, avec plus de détails qu'il ne serait à propos d'en donner ici, et ce lui fut une occasion d'éclater contre les insensés qui essaient de fonder le mariage sur la plus fugitive des passions humaines. J'avais toujours eu une grande aversion pour l'amour, même pour celui qui allait au légitime, tant cette passion me paraissait indigne d'une âme bien faite. Mais je m'y confirmais encore davantage, et je compris bien que la raison ne suit guère les choses faites par passion, et que la passion cesse vite, qui n'est jamais de longue durée. L'on est fort malheureux le reste de ses jours, quand c'est pour une action de cette durée où elle engage comme le mariage, et l'on est bien heureux quand l'on veut se marier, que ce soit par raison et par toutes les considérations imaginables, même quand l'aversion y serait, car je crois que l'on s'en aime davantage après. Le principe peut être sage, mais la grande mademoiselle est pourtant par trop sûre de son fait. Ce « même quand l'aversion y serait » est cruel à digérer. La princesse marchait vers la trentaine quand elle traitait l'amour avec ce mépris. Et rien ne l'avait encore averti de l'imprudence de défier la nature. Aussi se croyait-elle bien à l'abri. Au printemps de 1653, le bruit avait couru qu'elle et monsieur le prince s'étaient promis le mariage, dans l'attente et dans l'espoir d'être bientôt débarrassés de la princesse de Condé, toujours malade, et que l'imagination de mademoiselle, à défaut de son cœur, la pressait furieusement dans cette affaire. Les salons parisiens n'avaient pas trouvé d'autre explication à l'attitude hostile qu'elle s'obstinait à conserver envers la cour de France. Qu'elle aurait eu tant d'intérêt à se réconcilier. Il était inconcevable, sans une raison de ce genre, qu'elle se compromît comme elle le faisait pour un prince passé à l'étranger et que l'on ne reverrait peut-être jamais. Pourquoi afficher leur intelligence par des lettres dont Mazarin surprenait toujours quelqu'une. Pourquoi laisser à Condé, devenu général espagnol, les compagnies levées sous la fronde, avec l'argent de mademoiselle et portant son nom, où elle avait perdu le sens, où il fallait s'attendre à quelque équipée romanesque qui se dénouerait par un mariage.
« Avez-vous tout dit ?»
demanda mademoiselle à la vieille comtesse de Fiesque, son ancienne gouvernante, un matin que cette dernière lui dévidait les commentaires du monde.
« Non !»
répondait la bonne femme. Sa maîtresse la laissa aller, puis elle prit la parole, indignée, qu'on la crût capable de se marier par coup de tête. Le reste ne l'avait pas touchée. Elle déclara que Monsieur le Prince ne lui avait jamais parlé de l'épouser et qu'il serait temps d'y songer si Madame la Princesse mourait, que Monsieur le Prince rentra en grâce, qu'il la demanda en mariage et que le roi approuva l'affaire.
« Je crois,
poursuivit-elle,
que je l'épouserai, n'y ayant rien en sa personne que de grand, d'héroïque et digne du nom qu'il porte, mais de croire que je me marie comme les demoiselles des romans et qu'ils viennent en Amadis me quérir sur un palfroy, pourfendant tout ce qu'il trouva en chemin qui lui fera obstacle, et que de mon côté, je monte sur un autre palfroy, comme Madame Oriane. Je vous assure que je ne suis pas d'humeur à en user ainsi, et que je m'estime fort offensé contre les gens qui ont une telle pensée de moi. »
Ici, la princesse se tut. C'en était le moment de donner le mot de sa conduite. Mais il aurait fallu avouer qu'en dépit de ses beaux discours et de son mépris pour les amoureux, elle en était justement une vraie princesse de roman, menée par son imagination. L'idée de faire la guerre au roi du fond d'un grenier l'avait amusée, et encore plus celle d'être le prix de la paix avec Condé. Et elle n'avait pas voulu regarder plus loin, tandis que l'orage s'amoncelait sur sa tête. La grande préoccupation de mademoiselle était d'installer un théâtre dans son château délabré, où les ouvriers du pays n'étaient pas encore venus à bout de lui arranger une chambre à coucher. Elle ne pouvait plus vivre sans
la comédie.
Le théâtre passa avant tout. Il fut prêt en février 1653 et inauguré aussitôt par une troupe ambulante, engagée pour la saison. La salle était commode, mais très froide. La cour de Saint-Fargeau y descendait de ses galetas tout en mitouflées, les dames coiffées de bonnets, de fourrures. Les gens assez heureux pour être invités accouraient de 10 lieues à la ronde, grelottés de compagnie. Mademoiselle était parfaitement contente.
« J'écoutais la comédie avec plus de plaisir que je n'avais jamais fait. »
Nous ne savons plus ce que c'est que d'aimer le spectacle. D'après la Gazette de Loret, la pièce d'ouverture avait été une pastorale,
moitié gaie et moitié morale.
Mademoiselle aimait ce genre un peu démodé. Ce gré avait conservé un joli souvenir d'un soir d'été passé en forêt, à écouter dans le décor naturel d'une haute futaie une amaryllis vieillotte,
repolie
et remise à la scène par quelque écrivain de métier. Mademoiselle, au surplus, aimait tout en fait de théâtre. Depuis la tragédie jusqu'au chien savant. On lit dans une bagatelle de sa façon, écrite en manière de passe-temps et imprimée pour divertir ses amis.
Les comédiens, ces choses nécessaires, de français et d'italiens, de bateleurs sauteurs de cordes et buveurs d'eau, sans oublier les marionnettes et joueurs de gobelets, des chiens dressés à sauter et des singes pour monter au nôtre, des violons, des baladins et bons danseurs.
Sans vouloir prendre cette boutade, au pied de la lettre, elle s'accorde avec le récit que nous a laissé un témoin de l'une de ses représentations de Saint-Fargeau. On donnait les plaisirs de la campagne. Ballet, mêlé de chants. Le grand succès ne fut ni pour la déesse Flore, ni pour l'amant mélancolique. Il fut pour deux enfants déguisés en singes et exécutant avec cadence tout ce qu'on apprend à ces animaux. Deux fois la semaine, les plaisirs et les soucis de Saint-Fargeau étaient variés par l'arrivée de l'ordinaire, apportant les lettres et les gazettes. Les nouvelles que l'on osait confier à la poste s'apprenaient par les visites de Paris ou par des messagers spéciaux. On se tenait à peu près au courant des événements politiques, mais il manquait aux exilés de savoir en démêler les ressorts et en tirer la morale. Ce talent-là, que les Parisiens ont toujours possédé au plus haut degré, n'a jamais passé la banlieue. On ne l'emporte pas avec soi. Mademoiselle ne l'avait jamais eue, même aux Tuileries. Elle était la première à dire
« Je ne devine jamais rien ».
Une fois dans son trou, elle ne comprit plus absolument rien à l'histoire de son temps.